BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, une semaine de 4 jours que vous venez de passer, c'est très dur, c'est un scandale. Comment on peut faire des semaines de 4 jours? Heureusement, la semaine prochaine, ça va être plus cool. Mais moi, j'ai 3 bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end. Et c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on va vous donner toutes les clés, sans exception, pour comprendre ce qui s'est passé la semaine dernière sur l'économie, sur la finance, sur les marchés. Mais surtout, on va déjà vous dire ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors ça, c'est quand même énorme. Au sommet, aujourd'hui, le mot de la semaine. Guerre, la question macro, la Chine s'est-elle vraiment réveillée? Un chiffre, 4,9% l'inflation aux États-Unis. Est-ce qu'on commence finalement à s'habituer à l'inflation? Est-ce que c'est pas une cause d'inflation? Vous voyez, c'est compliqué, hein, on réfléchit. En deuxième partie d'émission, la bourse, bah, toujours la même chose, hein, en hausse, toujours en hausse, on achète ou on vend. Nouvelle rubrique, le placement de la semaine. Quel placement recommandez-vous cette semaine? C'est la question qu'on va poser à nos gérants. On va évidemment demander à nos gérants de nous donner les pépites de la semaine. Vous allez voir, on a changé un peu la formule. Les mots de la semaine de nos Jedi, le top 3 des gérants pour la semaine et les actions à acheter ou vendre. Allez, on y va. Pour une émission exceptionnelle, vous le savez maintenant, il faut quoi? Il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Gare aux irresponsables de tous bords. Nous avons fait appel à une responsable de l'investissement responsable. Alors tenez-vous à carreau, les gars. C'est Léa Dunant-Châtelet. Je dis les gars, ça peut être les filles aussi. Hein. Vous êtes chez DNCA Finance. Et là-bas, ça file droit chez DNCA Finance.
Ça file très très droit.
Il n'y a pas d'irresponsable là-bas.
Si, bien sûr, comme partout.
Ah bon,
en tout cas, je suis
des noms
non, ça je peux pas. En revanche, je suis très contente d'être là avec l'encyclopédie de l'économie. Ah
ben non, mais me gâchez pas
oui,
ma présentation.
Je n'ai pas peur des mots.
C'est un événement tout simplement historique. Jean-Marc Daniel dans C'est votre argent. Voilà ce que dit ChatGPT de lui, économiste émérite, éclairé et éclairant, emblématique et éloquent.
Mais écoute, je trouve que c'est pas assez. Hein.
C'est pas assez. Merci d'être là. C'est un événement.
Mais c'est avec plaisir.
Ça fait des années. Bon, c'est un mercato. Ça fait des années qu'on essaye de l'avoir, mais il nous coûtait trop cher. Et comme les podcasts marchent bien, j'ai pu augmenter mes budgets. L'homme détient, en fait, tous les secrets d'investissement des grandes fortunes. Et on a eu la co-exclusivité avec Closer. Il va tout nous révéler ici, Eric Blaine. Il va falloir tout balancer.
Bonjour à tous. Oui, je
sur votre vie privée pour Closer et sur les secrets des grandes fortunes. Je rappelle que vous êtes directeur de Swiss Life Gestion Privée. Est-ce qu'il faut le présenter? Ah, je sais pas. Je me pose la question. Jean-Marc, est-ce qu'il faut le présenter?
Non, pas vraiment.
C'est un monument.
Oui, absolument. Ce serait une faute de goût.
Voilà. Donc, je vais rien dire, sauf que je suis fan absolu et que pour moi, géopolitique rime avec Benaouda Abdedaïm. Bonjour, Benaouda.
Bonjour, merci de l'accueil.
Le mot de la semaine, guerre. Alors en 2022, je vous rappelle, parce que ça paraît très très loin cette guerre-là en Ukraine, sauf malheureusement pour les Ukrainiens, elle a secoué l'économie, elle a secoué les marchés, flambé des matières premières, flambé de l'inflation, chute des bourses, et puis on a tout effacé en un an, hein, je vous rappelle, prenons un exemple emblématique, hein, le gaz, il est au-dessous du niveau de l'invasion en Ukraine. L'Ukraine est de moins en moins évoquée, je sais pas si c'est triste ou une réalité, dans les JT ou sur les marchés. La guerre en Ukraine, est-ce que c'est toujours un facteur géopolitique, Benaouda? Parce qu'on a vraiment l'impression, en tout cas, on va en parler dans l'économie et dans les marchés, que pour l'économie et les marchés, c'est plus un sujet. Ce qui est quand même très étonnant quand on voit l'impact que ça a eu l'année dernière.
C'est quand même effectivement étonnant. Lorsque vous voyez que le ministre de la Défense britannique est en train d'envoyer des missiles de plus de 250 km de portée, c'est-à-dire capables de toucher en profondeur les dispositifs russes. Lorsque vous voyez, par ailleurs, que le président, toujours cette semaine, hein, ouais. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, retarde sa contre-offensive tant annoncée du printemps, en expliquant qu'il n'a pas encore reçu suffisamment d'armement et de munitions. Lorsque vous voyez que ça devient vraiment une question... pivot dans l'opinion publique américaine. En mars, un sondage, une enquête d'opinion de YouGov est passé assez inaperçu, où 51% de l'électorat de Donald Trump a estimé qu'on est des que les États-Unis aidaient trop militairement les Ukrainiens et que vous avez vu...
Lui, il l'a dit lui-même.
Il l'a dit lui-même. La question l'a été posée.
Oui. Il a été très clair. Hein.
Alors, il a été évasif. Pour qui voulez-vous voir gagner ? Est-ce que la Russie ou l'Ukraine ? Il a refusé de répondre.
Oui, mais c'est donc il a été très clair.
Exactement.
Il ne veut pas s'en mêler. Quoi.
Et c'est d'autant plus important que, toujours une autre enquête d'opinion, pour ABC News et Washington Post, élection présidentielle 2024, ouais. Face à Joe Biden, il est à 7 points devant. Et surtout, ce qui est frappant, c'est de voir que l'appréciation générale, y compris auprès des électeurs indépendants, c'est-à-dire l'électorat pivot, va dans le sens de Donald Trump, premier point, que même sa gestion économique est jugée bien supérieure à celle de Joe Biden. C'est vous dire si dans les semaines et les mois à venir, cette question ukrainienne, cette guerre sur le sol européen va rester très importante.
Donc c'est encore une question importante géopolitique. Le rôle de la Chine, très rapidement.
La semaine prochaine, lundi, le représentant spécial du président Xi Jinping se rend en Pologne, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Ukraine. Et en Ukraine, c'est très important pour apporter sa contribution, si je puis dire, la contribution de la Chine dans ce conflit. Donc, la Chine entre aussi dans le jeu. Et là aussi, il va falloir s'attendre à des évolutions majeures.
Ils peuvent obtenir une trêve, les Chinois ?
Ce sont à peu près les seuls, les seuls en mesure de dire aux Russes d'écouter les Ukrainiens et que les Ukrainiens écoutent de ce fait les Chinois parce qu'ils se disent que ce sont les seuls qui sont capables, non pas de faire plier, mais d'orienter le conflit en Russie.
Jean-Marc Daniel, la guerre en Ukraine, c'est encore un sujet économique ou on doit passer outre ?
Oui, je pense que c'est encore un sujet économique. D'abord, sur les matières premières, effectivement, le choc est derrière nous. Maintenant, le prix du blé, on est même dans une situation où un certain nombre de pays en Europe de l'Est disent arrêter d'envoyer du blé ukrainien, d'importer du blé ukrainien, on ne sait pas quoi faire du blé. Et et de même sur le prix de l'énergie, on est dans...
Oui, ça peut revenir cet hiver, non ?
Alors, ça peut revenir cet hiver. Ce qui est frappant quand même dans cette guerre, c'est qu'on a à la fois des drones, des et puis il y en a des gens qui se battent à la baïonnette dans des tranchées. On est en train de parler d'un nouveau Verdun dans l'Est de l'Ukraine en ce moment, à Bakhmut, parce que effectivement c'est quand même encore un combat qui est un combat extrêmement rude et primitif. Alors sur le plan strictement économique, moi ce qui m'intéresse c'est la réaction et la réactivité de l'économie russe. Oui. C'est-à-dire c'était quand même la 12e économie mondiale avant le conflit et puisque je parle tout le temps d'histoire, je cite assez souvent ce qu'avait fait Adolphe Blanqui sur le blocus continental. Il disait en fait, en faisant le blocus continental de l'Angleterre, on aura eu deux résultats. Le premier résultat, c'est de créer des États contrebandiers. Il y a des gens qui vont aller voir les Anglais et vont essayer de contourner le blocus et vont créer ce qu'on appelle des États contrebandiers. Et là, typiquement, l'Inde est un État contrebandier. C'est-à-dire que l'Inde est entre...
Et les monarchies du Golfe qui rachètent du pétrole russe pour le revendre.
Et donc, il dit bien que le véritable problème pour celui qui engage une guerre économique, c'est comment il va maîtriser les États contrebandiers. Et Napoléon n'y est pas arrivé. Je pense qu'on n'arrivera pas à maîtriser les États contrebandiers. Et la deuxième chose, c'est la capacité qu'a le pays qui est concerné par le blocus, qui est entouré, a réadapté son appareil productif. Et il dit, la grande erreur, c'est de mettre tout le monde dans l'armée, de faire de tout le monde des officiers, alors que pour arriver à ce résultat, il faut garder des ingénieurs. Et je pense qu'un des problèmes de la Russie, c'est qu'aussi elle est en train de transformer son élite, soit en exilé, soit en officier. Et donc, elle va souffrir beaucoup plus qu'on ne le pense dans les années à venir.
Nous, en Europe, vous nous dites, pas d'inquiétude. Enfin, évidemment, s'il y a des dérapages majeur, mais vous nous dites, moi, économiste, je réfléchis plus d'un point de vue d'une perspective historique économique.
Non, mais écoutez, le 1% de croissance annoncé pour la France dans la loi de finances est, à mon avis, est tout à fait accessible. Et le Fonds monétaire international, dans ses prévisions, a dit, écoutez, on aura une croissance mondiale aux alentours de 3%, c'est un des pires scores qu'on ait connu depuis la création du fonds. Mais de notre côté, c'est pas la récession. Donc, au niveau mondial...
C'est vrai qu'ici même, on parlait de hard landing, de récession, et finalement, il s'est rien passé. Vous vouliez dire quelque chose, non ?
Oui, juste pour dire que l'État contrebandier en question va être appelé à devenir la troisième économie mondiale. Donc, autant vous pouvez jouer avec des petits, autant avec l'Inde, ça va être très difficile de les faire plier d'une manière ou d'une autre.
Les gérants, ils regardent encore la guerre en Ukraine ou...
Évidemment,
on met le côté humain à part.
À mon sens, oui, parce que... Alors, deux choses. Un, ça accélère, à mon avis, là, pour le coup, Ben Aouda pourra rajouter s'il veut, mais la construction de deux blocs, bloc occidental versus un bloc Russie, Chine, qui se reconstruit constitue et qui veut prendre la suprématie sur la valeur du dollar à l'international et son usage, et puis sur les changements durables que cette guerre provoque, pour moi c'est une démondialisation qui va être accélérée, avec donc le sujet de souveraineté nationale, le sujet de la production, de protectionnisme, qui fait que ça va être en fait entraîner des gros sujets durables en fait, et des gros changements.
C'est pas du bidon, ça, cette histoire de protectionnisme. C'est-à-dire, j'en entends parler, réindustrialisation.
C'est la réindustrialisation.
C'est bidon.
Le néoprotectionnisme, c'est assez bidon. De toute façon, je pense que de même.
C'est des effets de manche.
C'est des effets de manche. Alors, notre président de la République a un côté caméléon. Donc, il y a 10 ans, il parlait de Startup Nation. Il allait à Las Vegas. Il était fasciné par les drones et tout ça. Et son prédécesseur disait, can you see the fusée, parce qu'il savait, il avait une vision de la mondialisation assez personnelle. Mais je pense que fondamentalement, il y a de telles interdépendances qu'il est très difficile de remettre ça en cause, et notamment sur le dollar. Je pense que le dollar a toujours vocation à être la monnaie mondiale, la monnaie internationale. Moi, ce qui me frappe...
Compte tenu de la domination presque écrasante post-guerre en Ukraine,
Et puis, en plus, comme il y a un tel déficit extérieur des Américains, que tout le monde est inondé de dollars, et donc la matière première est là. Quand on parle du yuan, par exemple, le problème du yuan, c'est que, un, il n'est pas directement convertible, et deux, il y en a assez peu qui circulent à la surface de la planète, puisque les Chinois, ils ont plutôt tendance à vendre qu'à acheter.
Voilà la transition toute trouvée. Je passe tout de suite à la question de la semaine. L'économie chinoise s'est-elle réveillée? On a trouvé un petit rock chinois. Après 3 ans de restrictions liées à la politique zéro Covid, on s'attendait à une explosion de la consommation des ménages. Pour l'instant, ça fait un peu pchit. La reprise est molle. Le pouvoir politique ne semble pas vouloir alimenter la reprise. Est-ce qu'ils ont appris des erreurs de l'Europe et des États-Unis qui ont voulu alimenter la reprise et donc créer la bulle d'inflation? Et est-ce que c'est pour ça, ou est-ce qu'il y a un problème politique?
Il semble qu'ils aient vraiment appris de leurs propres erreurs à eux. Le Bureau national des statistiques a sorti les déficits budgétaires des 31 grandes provinces et municipalités du pays. Donc les grandes collectivités territoriales, hormis Shanghai, elles sont toutes dans le rouge. Une province a appelé à l'aide vraiment un sauvetage financier, le pouvoir central. Vous avez aussi des collectivités locales qui ne parviennent plus à payer leurs fonctionnaires. On a des arriérés de salaire pour des fonctionnaires, ça ne s'était plus vu depuis au moins 10 ans.
Mais pourquoi le pouvoir central ne compense pas?
Parce qu'ils estiment qu'il va falloir faire comprendre, cette fois-ci aux collectivités territoriales, qu'il faut mettre en adéquation les recettes et les dépenses.
Donc la fête est finie, quoi.
La fête est vraiment finie pour eux. Et alors, et vous avez des indicateurs très simples, comme par exemple le prix du minerai de fer qui s'écroule. Et en même temps... Pour rejoindre ce qui vient d'être dit, c'est qu'ils sont en train d'entériner l'idée de cette décorrélation eux-mêmes. Les statistiques du commerce extérieur pour janvier à avril sont sorties en Chine. L'Asie du Sud-Est est maintenant 4,5 points en devant les États-Unis en termes de part de marché dans les échanges.
Donc,
de la Chine.
Comme Eric, il y a un rééquilibrage, quoi.
Et l'ASEAN est devant l'Union européenne, qui est devant les États-Unis. Donc vraiment, les États-Unis sont vraiment à part maintenant, de plus en plus à part par rapport à la Chine dans les échanges commerciaux.
C'est intéressant, la Chine ne se réveille pas
dans le sens que...
Allez-y.
Je rebondis sur ce que Ben Aouda vient d'expliquer. Les entreprises nous ont alertés là-dessus en fin d'année dernière. C'était intéressant, leur discours sur la non-visibilité de la reprise chinoise, alors que tout le monde s'attendait à un premier semestre
Je pensais qu'on allait avoir une explosion de la consommation des ménages.
Et en réalité, une des raisons qui avait été évoquée à l'époque par les dirigeants qui avaient des positions assez importantes industrielles en Chine ou de services, c'était justement la relocalisation assez massive vers l'Asie du Sud-Est et donc le fait, la volonté des entreprises internationales de ne plus dépendre de la Chine et de décisions arbitraires. Et en fait, je pense que là, c'est ce qui est en train de se matérialiser de manière assez concrète.
La Chine se réveille ou pas?
La Chine est en train de changer, et donc elle se réveille, mais un peu avec la gueule de bois. Donc elle n'a pas l'enthousiasme qu'elle avait au départ, avant de s'endormir. Moi, ce qui me frappe, c'est d'abord qu'elle n'est plus le premier fournisseur des États-Unis. C'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui est redevenue le premier fournisseur des États-Unis. Et alors, vous avez des travaux qui avaient été faits au début du siècle sur...
Quel siècle?
Celui-là,
non, je sais pas, parce qu'avec vous, je me pose toujours la question de savoir si c'est le 14e ou le 13e.
Oui. Quand c'est le 14e, je précise. mais si c'est le 18e, ça va de soi. Et donc là, je précise, c'est de l'actuel siècle. Et donc, sur, effectivement, le rôle qu'avaient joué les États-Unis dans le développement d'un certain nombre de pays, en tant que client de ces pays, c'est-à-dire que l'Allemagne s'est redressée grâce aux États-Unis qui ont été, effectivement, le client de l'Allemagne, le Japon ensuite, les tigres asiatiques ensuite, la Chine ensuite, et maintenant, effectivement, la Chine est en train de découvrir que l'Inde va prendre ce rôle-là de fournisseur des États-Unis et qu'à partir de ce moment-là, il faut qu'elle se redéploie. Et là où je rejoins Ben Aouda, c'est le fait que les finances publiques sont dans une situation dramatique. Le FMI a sorti une note, alors non pas au début du siècle, mais là, cette année, sur la situation d'endettement.
Donc vous lisez des trucs qui sortent un temps quand même.
Oui, par curiosité, je n'abuse pas.
D'accord, n'abusez pas trop.
Oui, absolument. Et donc, ce que dit le FMI, c'est que le ratio dette publique sur PIB en Chine, si on met tout, si on incorpore, non pas les entreprises publiques, hein, mais véritablement les collectivités territoriales, les gouvernements locaux et tout ça, on arrive à 150% du PIB.
Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? C'est-à-dire ils peuvent imprimer de la monnaie, quoi, en fait?
Ah ben oui, tout à fait. D'autant plus qu'ils ont encore un équilibre extérieur. Ah oui. S'ils impriment trop de monnaie, ils vont basculer dans le déséquilibre extérieur. Alors, ça permettra l'internationalisation de leur monnaie. Mais dans la situation dans laquelle ils sont, comme ils ne sont pas sûrs que cette internationalisation...
Ils pourraient faire exactement comme les États-Unis, en fait.
Oui, sauf qu'il faudrait que les gens l'acceptent. Alors, le dernier indicateur, c'est à la dernière réunion du G20, quand on a abordé la liste des 57 pays qui sont menacés de cessation de paiement. En ce moment, il y a le Pakistan et le Sri Lanka. Le Sri Lanka est en tutelle immédiate du FMI, le Pakistan c'est en cours, et ce qui a surpris à mon avis les gens, c'est l'absence d'ouverture d'esprit des Chinois. Ils sont extrêmement déterminés à récupérer leur argent.
Parce que le monde entier leur doit de l'argent, là ils doivent, le Soudan qui est entré en guerre, leur doit 5 milliards de dollars, donc ils ont des factures qui apparaissent de partout. Mais puis il y a un autre problème.
Parce que ça faisait partie de leur stratégie aussi.
Tout à fait, mais oui, mais il faut bien qu'un jour on soit remboursé d'une manière ou d'une autre. Lorsque vous avez un pays qui est en guerre civile et qui est appelé à durablement...
Mais l'idée, c'était d'être remboursé? Parce que, est-ce que c'était pas simplement un peu du
bien
soft,
sûr,
hard
power? Mais il faut qu'il y ait quelque chose en échange. D'accord. Mais là, actuellement, il n'y a rien en échange. Sûr. Ils ont sorti. Mais il y a un autre problème fondamental qui est en train de se présenter à eux, c'est que le mois prochain, il y a 11 millions et demi de jeunes chinois qui vont avoir un diplôme d'enseignement supérieur. Il y a un papier très intéressant dans une publication de Shanghai qui est sorti cette semaine d'un sociologue chinois.
Écrit en grec, non?
Non. Ah, okay.
Ah, c'est dommage, moi, je
C'est dommage parce que sinon.
Ah oui, sinon, non, le transmet, qui montre une inadéquation entre l'offre d'emploi et les qualifications de cette jeunesse. Hormis ceux qui sortent des universités d'élite, vous avez toute une partie de cette jeunesse chinoise diplômée qui n'est pas en inadéquation avec ce qui est demandé par les entreprises. Après, ça n'enlève en rien l'extraordinaire essor des Évidemment. Publications scientifiques, etc. On l'a dit plusieurs fois ici, mais quand même, il y a une inadéquation de l'offre et de la demande de ressources humaines, et là aussi, ça risque d'être un problème.
C'est une sacrée transition, ce que vous nous dites quand même sur la Chine, les deux, enfin, et même, on est quand même dans une fragilité, là.
Oui, on est dans une fragilité, puis il y a une fragilité politique, effectivement, à partir du moment où l'actuel dirigeant cherche absolument à...
Il y a une fragilité politique?
Ah ben, je pense qu'à partir du moment où il prend autant de sécurité pour garantir son pouvoir, c'est qu'il se sent menacé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il l'est menacé, mais il prend un certain nombre de mesures, des ceintures de sécurité pour être sûr de conserver son pouvoir. Et il voit bien, encore une fois, que autour de lui, il y a tout un tas de pays qui ont vocation, le Vietnam, l'ennemi historique, le Vietnam qui est en train de devenir une des puissances économiques de référence, qui a passé un accord de libre-échange avec l'Union Européenne. Et donc, effectivement... Il va falloir s'adapter. Les beaux jours sont derrière eux. Hein.
Allez, on passe tout de suite.
Dans l'ivresse de l'arrivée, c'est la gueule de bois.
Ouais, c'est clair. En tout cas, nous, on a la gueule de bois quand on vous écoute. Le chiffre de la semaine, c'est 4,9%. C'est l'inflation aux États-Unis en avril. Est-ce qu'on n'est pas, Jean-Marc Daniel, en train de s'habituer à l'inflation et du coup en train de l'alimenter?
Non, je ne pense pas. D'ailleurs, c'est ma grande thèse qui fait rire un certain nombre de gens, c'est-à-dire que l'inflation ne va pas s'arrêter parce qu'elle n'a pas commencé. D'accord. Parce que pour moi, l'inflation, c'est une hausse générale et durable de l'indice des prix. Or, tous les prix n'ont pas augmenté, seuls certains prix ont augmenté.
Qu'est-ce qui n'a pas augmenté? Tout a augmenté.
Non.
L'alimentaire a augmenté, le loyer a augmenté, l'immobilier a augmenté.
Mais vous regardez
les besoins, 80% du budget.
le matériel électronique n'a pas augmenté. Vous regardez aux États-Unis, il commence à y avoir des baisses sur les, ce que je disais tout à l'heure, sur le prix des tomates. On trouve des tomates aux États-Unis pour moins cher que l'année dernière. Donc il y a pas cette spirale inflationniste qu'il y avait eu dans les années 70-80. Je rappelle que sur la période d'inflation, qui était la période de 1966 à 1986, en France, le taux moyen de hausse des prix était de 8% par an.
D'accord.
Et depuis, donc la BCE vient de sortir ses statistiques, depuis qu'elle existe, donc depuis 2002, y compris les derniers mois, et le tout dernier mois, le mois de mars, le taux moyen d'inflation est de 1,3%.
Oui, parce qu'on a eu...
Parce qu'on a eu des périodes... Alors enfin, effectivement, on n'est pas dans une phase où c'est... général et durable.
Sur donc vous dites carrément il n'y a pas d'inflation.
Non, il n'y a pas d'inflation, c'est pour ça que je prétends que les politiques monétaires ont comme objectif de corriger cette aberration qui était les taux d'intérêt négatifs,
oui.
Mais qu'elles n'ont pas comme objectif de lutter contre un mécanisme qui n'existe pas, celui de l'inflation.
Mais, attendez, excusez-moi, mais les gens qui vous écoutent et qui ont leur pouvoir d'achat qui a baissé parce qu'ils n'arrivent pas à payer les prix qu'on leur demande de payer, on voit que quand même la consommation de biens essentiels alimentaires a baissé du fait de l'inflation. Comment vous conciliez votre point de vue ?
Non, oui, mais c'est le fait que on a arrêté de travailler, le monde a arrêté de travailler en 2020, 55 jours en France et tout ça, et dans la plupart des pays, on a maintenu le revenu. Donc vous avez un décalage, qui est un décalage entre ce qui a été produit et le revenu qui a été distribué. Mais ce décalage est un décalage qui n'a pas vocation à être permanent.
Sauf si on continue à faire rien foutre.
Sauf si on continue à rien foutre.
Ce qui est quand même une tendance un peu lourde.
En France, mais pas partout. En France, c'est une tendance assez lourde. Et donc, si on remet les gens au travail, même sur des bases qui sont des bases qui ne sont pas suffisantes, normalement, la correction se fait instantanément.
Vous ne serez jamais élu en France. Éric, l'inflation.
Là, sur ce sujet-là, je suis pas d'accord avec Jean-Marc.
Là, c'est très grave.
Ouais. Désolé.
Ah, mais il y a Ben Aouda.
Comment peut-on ?
On peut pas ne pas être d'accord avec Ben Aouda et Jean-Marc, c'est impossible.
Comment peut-on ?
Non, mais ça, c'est un truc. On peut pas revenir.
Bon, je suis désolé. Bon, Eric, en tout cas, j'ai exprimé mon point de vue.
Non, mais profitez. C'est votre dernière intervention.
Donc, sur les services, après avoir fait augmenter quand même beaucoup de choses l'année dernière, on augmente le prix des services d'une manière générale. Et puis, alors, d'accord, on va peut-être pas revenir à 8% d'inflation en permanence. Mais je suis vraiment, j'ai de gros doutes sur l'idée qu'on va retrouver 2%, comme le veulent les banquiers centraux, voire 1,3%, comme vous l'annonciez sur les 10 dernières années. Pour moi, on sera plutôt entre 3,5 et 4, parce que on a des sujets quand même de monde à décarboner. C'est beaucoup d'investissement et pas beaucoup de rentabilité en plus, donc en productivité ça s'écroule, parce que on a la traçabilité qui se met en place partout, ça coûte cher, ça rapporte rien, parce que il y a l'histoire de la souveraineté nationale qui se met en place, la population vieillit et donc il y a un sujet de goulot d'étranglement sur les salariés disponibles. Donc pour moi tout ça crée de l'inflation.
Qu'est-ce que vous répondez, professeur?
Ouais, je réponds à qu'il ne faut pas confondre hausse à un moment donné d'un.
Ouh là là, ça fait mal ça.
Et inflation. Non, parce que l'inflation c'est une hausse qui s'auto-entretient. C'est-à-dire les prix augmentent tout le temps. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai été augmenté tous les trimestres de 3%. C'est-à-dire que ça augmentait tout. Et à l'époque, les syndicats disaient avec raison, c'est que les prix prennent l'ascenseur et les salaires prennent l'escalier. Ouais. C'est-à-dire on courait après cette hausse des prix. Là, vous avez des prix qui ont augmenté et ces prix, effectivement, certains vont se mettre à baisser, d'autres vont plutôt se stabiliser. Ça ne veut pas dire effectivement que le pouvoir d'achat va être reconstitué sur ces prix-là.
Vous dites que les prix peuvent rester à des niveaux élevés, mais l'inflation...
Voilà, l'inflation, c'est la hausse des prix. C'est la déformation de ces prix. Et la deuxième chose, je pense que, et dans mon corps, le gouverneur de la Banque Centrale, François Villeroy de Gallo, alors c'est peut-être pas une garantie de succès, mais ouais, il est dans mon corps puisqu'il a dit j'annonce que l'inflation sera à 2% l'année prochaine, et il a dit ce n'est pas une prévision, c'est un engagement. D'accord. Et comme il n'y peut pas grand-chose, je pense qu'effectivement, il a des éléments d'information qui lui permettent de dire que, comme la mouche du coche, il va réussir.
Patron de la Banque de France qui nous a expliqué, en venant ici, devant nous, qu'il n'y avait pas de problème de crédit immobilier pour les particuliers. Donc, je ne suis pas sûr que vos sûrs, sans être référence...
Mais il y a un indicateur assez intéressant, c'est qu'au sein de la BCE, les syndicats sont en train de négocier une corrélation des salaires à l'inflation. Pour les employés de la BCE.
Pour les employés de la BCE.
Donc, si ça aboutit, c'est un indicateur assez.
Alors, je sais ce que va dire Léa. Il y a de l'inflation, elle va rester, elle va durer.
Eh oui, mais moi, j'ai ce discours-là depuis longtemps, donc je vais venir en soutien d'Éric. Peut-être que ce sera ma dernière intervention aussi.
Vous dites en soutien d'Éric, vous ne dites pas contre Jean-Marc Daniel.
Oui, c'est très malin,
c'est une hécatombe cette émission.
Non, mais moi, je voudrais dire une chose importante, c'est qu'il y a quelque chose qui m'inquiète et qui est en soutien de l'inflation, c'est qu'on a une croissance. L'efficience, je suis sûre que ça parle à Jean-Marc, évidemment, on a une croissance qui est moins rapide que les besoins.
Ah, vous êtes pote?
Non. Okay. Mais je le connais parce que je le regarde tellement. Ouais. On a une croissance qui est moins forte que les besoins dont on a besoin pour alimenter cette croissance. En gros, non mais c'est très important ce concept très économique. Très et c'est très récent. Ça date d'il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'en fait, les moyens qu'on met en face pour alimenter notre croissance croissent à une vitesse exponentielle, là où notre croissance, finalement, est assez molle. Et ça, c'est la
preuve. Vous parlez de la productivité, là.
C'est ça, une façon de parler de la productivité. Et je pense que ça, c'est la preuve qu'on va rester dans un monde inflationniste.
Allez, on se retrouve en deuxième partie de l'émission. C'était très sympa. La bourse, est-ce qu'on achète ou on vend? Le placement de la semaine, les pépites de nos gérants, le top 3 des gérants, vous attendez avec impatience. À tout de suite.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission. La première était déjà passionnante avec Benaouda Abdedaïm qui vient de recevoir une dépêche qui, en bulgare, sous-titrée tchèque, c'est ça ?
En bulgare,
Chine.
Bulgare.
Hein, voilà.
Pour changer de Premier ministre.
Éric Blaine, donc, qui, regardez-le ou écoutez-le, parce que c'est sa dernière intervention, puisqu'il a dit je ne suis pas d'accord avec Jean Marnier. Ce qui, chez BFM Business, vaut démission immédiate ou départ instantané. Jean-Marc, Daniel, ça va? Vous vous habituez à l'émission? Elle est sympa?
Mais ça va pour l'instant, ça va.
Vous me disiez pendant la pause que c'était l'émission la plus sympa, c'est ça?
Mais de très très loin.
Et Léa Dunant qui dit bah, bien sûr, de l'inflation, toujours de l'inflation, encore de l'inflation. Allez, on passe au marché. Alors, bon, j'en ai marre, je dis la même chose. Le CAC 14%, le DAX 14%, le S&P 7%, le Nasdaq 18%, l'Eurostock 13%. Allez, messieurs, madame les gérants, la bourse, stop ou encore, Éric Blaine. C'est à vous.
Stop. Je pense qu'on a atteint un plafond quelque part. Ça va être le mot de la semaine. On a besoin de souffler.
On n'est pas au mot de la semaine.
Oui, on a besoin de souffler en fait.
Pourquoi on a besoin de souffler?
Pourquoi? Parce que
c'est ça que j'arrive pas à comprendre chez les gérants. C'est pas parce que ça doit monter que ça doit baisser. Je sais pas.
C'est pas parce qu'on a monté qu'on peut continuer de monter.
Voilà.
Mais pour moi,
pourquoi on doit souffler?
Pour mon analyse, je pense qu'on a besoin de souffler. Une des raisons, notamment, c'est que les publications des entreprises qui viennent d'être quasiment finies ont montré que les chiffres étaient bons dans l'ensemble.
Ouais.
Le tout début, c'est-à-dire sur le luxe, il y avait des belles surprises exceptionnelles. Les titres ont monté. Le reste, c'était aussi des belles surprises, mais ça monte pas sensiblement. Et si vous décevez un petit peu, un tant soit peu, vous baissez quand même fortement.
D'accord.
Donc après avoir salué une activité économique qui était plus forte que ce que les économistes attendaient, après avoir vu des bonnes publications, comme on le disait, et puis là, imaginez la fin de la hausse des taux des banquiers centraux, où le marché a fait un très beau rallye, et puis tous ces investisseurs américains qui ont vendu la Chine pour acheter l'Europe, pour se repositionner, les mouvements sont finis, en fait. Et donc, on rentre dans une période plus compliquée.
Ils sont finis, mais on peut rester là, quoi, en fait. On peut ne plus bouger, ou non, vous dites correction?
Je pense qu'on est un peu tendu.
D'accord.
Et donc on pourrait rebaisser de 5-8%.
Vous me disiez tout à l'heure tendu comme un slip.
Donc 5-8% de baisse.
Non mais vous pouvez le dire, hein, c'est pas, ne soyez pas gênés.
Ça, ça permettrait en fait de redonner un petit peu de valorisation intéressante sur quelques dossiers et de se repositionner. Je pense qu'on a fait une grande partie du chemin.
Alors Benaouda a levé sa main sur la partie bourse qui est un événement historique.
Vous allez comprendre pourquoi, parce que je trouve assez étonnant que le fait que les États-Unis soient à ce point au bord du précipice ne soit si peu valorisé.
Vous parlez de la négociation.
Du plafond de la dette.
Ouais, mais le problème, c'est que je vais vous dire un truc. Moi, ça fait 40 ans que je suis sur les marchés, ou presque. Mais le film, on l'a vu, mais 250 fois. Donc, on n'arrive plus à y croire.
Vous avez déjà vu un ancien président des États-Unis dire devant une caméra, aller au défaut de paiement pour forcer les démocrates à.
C'est Donald Trump, on
sait. Oui, mais Donald Trump a été président des États-Unis et c'est peut-être le prochain. Donc, de ce point de vue-là, c'est difficile de toujours balayer.
Non, mais je vous explique, je ne dis pas que vous avez tort.
Oui.
Je dis que même moi, je n'arrive pas à m'y intéresser.
Ah, non, mais c'est pour
parce
ça
que je me dis, le film, à chaque fois, je me laisse prendre et à chaque fois, on a la signature de la dernière heure.
Bah, d'ailleurs, c'est pour ça. On a vu cette nuit, enfin la nuit entre jeudi et vendredi, des élus républicains radicaux, donc sur sa ligne, dire que même lui est allé un peu loin de ce point de vue. Donc peut-être qu'on est en train dans un point de bascule. Mais vous avez peut-être la semaine prochaine le président des États-Unis qui ne va pas aller devant le G7 à Hiroshima à cause de ce dossier-là.
Oui, vous avez raison. C'est un événement.
Ouais.
Léa, stop ou encore ?
Alors stop déjà.
Stop.
Oui.
On
oui,
a deux stops.
Oui, j'ai le même point de vue que Eric, des raisons un tout petit peu différentes.
Quelle déprime.
Je suis pas tout à fait d'accord sur les flux. Je pense que les flux sont pas revenus en tout cas les flux structurels des investisseurs institutionnels sont pas revenus. Ils attendent et c'est pour ça qu'une correction sera à mon avis très faible, 5, 10, j'y crois
c'est
même pas.
Mal, déjà.
Ce serait déjà pas mal effectivement.
Ah, c'est beaucoup,
qu'est-ce qui m'inquiète à court terme ? Ce qu'a dit Eric est très important. Là, on a ce qu'on appelle un momentum de marché, un sentiment qui est très fort. Quand les publications sont bonnes et que ça ne monte pas, parce que c'est globalement ça qui s'est passé, et que les mauvaises publications, voire des publications normales avec des prévisions pas très bonnes, sont entre moins 10 et moins 20 de correction, ça veut dire que le marché, il s'essouffle.
Ouais,
il n'y a alors, plus de potentiel.
Il y a un contre-argument de pas mal de vos collègues qui consiste à dire la hausse a été très concentrée sur quelques valeurs. Et donc, il y a plein de valeurs qui sont au tapis.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça.
Très bien.
Je suis même plutôt pas d'accord. On en avait parlé en début d'année. Je Absolument. Trouve que c'est relativement homogène et je continue de penser que c'est relativement homogène. Bah,
les
en particulier.
Small et mid-cap, déjà,
alors, sauf celle-ci.
Démontées.
Ça, c'est vraiment un segment de la cote qui n'est pas du tout adressé, mais ça aussi, c'est un effet volume, flux, pour lesquels il n'y a absolument pas d'intérêt. Ce qui est inquiétant, c'est la partie liquidité. On en a parlé. On a eu une crise bancaire qui a été, franchement, même pas regardée par les marchés, à peine quelques jours, qui a ramené de la liquidité là où finalement on devait avoir ces retraits de liquidité. Et là, vous avez la SEC qui a quand même lancé un signal intéressant la semaine dernière en disant.
C'est l'AMF américaine.
Exactement, l'autorité des marchés américaine qui a annoncé quand même vouloir regarder tous les soirs les positions des hedge funds.
Des fonds spéculatifs.
Exactement ça. Ça laisse penser quand même que le sujet de la liquidité peut être un élément pour faire baisser les marchés. Allez. De 5 ou 10%, comme on disait.
Alors, hors antenne, j'ai posé la question à Jean-Marc Daniel, est-ce que vous avez quelque chose, je le tutoie, est-ce que tu as quelque chose à dire sur la bourse ? Et il m'a dit, la bourse, je m'en fous. Est-ce que vous pouvez vous expliquer devant nos téléspectateurs et nos auditeurs pour ce que vous venez de dire, qui est quand même extrêmement grave ?
Oui, absolument, absolument, surtout dans cette émission. On veut dire dans cette émission et dire,
écoutez, il s'appelle quand même C'est votre argent.
C'est votre argent, écoutez, franchement, tout ce que vous racontez ne m'intéresse pas. Donc, je vais préciser mon point de vue, non pas que ça ne m'intéresse pas, mais je suis persuadé que c'est l'économie qui gouverne la finance et non pas la finance qui gouverne l'économie. Et donc, quand
la
on regarde...
La finance n'est pas votre ennemi.
Non, ah non, au contraire. La finance est mon ami et je considère que la finance en France est particulièrement performante. On dégage, grâce à nos banques, des excédents extérieurs qui sont bienvenus. Mais quand on regarde sur le long terme, on s'aperçoit que les performances boursières sont assez corrélées à l'évolution de la croissance. Et la croissance économique, ça reste fondamentalement des gains de productivité et du travail mobilisé. Et donc, la finance suit, la finance s'adapte. Alors après, vous avez dit ou tu as dit, la situation est tendue comme un slip.
Oui.
Alors ça m'a fait...
Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Eric Blaine. Je crois en vain. Il a même dit comme un string, donc, mais j'ai pas voulu parce que je trouvais que c'était déplacé.
Ça m'a fait penser à Alan Greenspan qui avait mis dans le circuit l'indicateur MUI. Men's Underwear Index. Et donc, il regardait l'évolution de la consommation et du prix, donc justement des slips, ouais. Pour avoir une évaluation de la situation économique. Et alors,
donc, Eric était quand même dans le vrai.
Mais absolument.
Finalement.
Et donc, bon. Le MUI.
C'est dommage qu'il nous quitte.
Mais oui, pour une fois.
Parce que c'est pas le MUI.
Vous pouvez s'intéresser au MUI. Et donc, le MUI, donc, Greenspan continue à regarder le MUI. Donc, la dernière fois qu'il est intervenu en public, il a dit, c'est très inquiétant parce que le MUI, indique que nous allons vers la récession. Alors, donc, sur la finance,
sur la bourse, le wealth effect, l'effet richesse. On dit beaucoup aux États-Unis que quand les Américains voient leur portefeuille boursier augmenter, bah, ils ont l'impression d'être plus riches. Ils peuvent emprunter de l'argent contre leur portefeuille et donc ils peuvent plus consommer. Vous dites non ?
Non, je dis non. Alors là, je vais rester très keynésien, ce qui peut surprendre un certain nombre des gens qui ont l'habitude de m'écouter. Le chapitre 17 de la théorie générale où il explique le cycle et où il explique.
Bien sûr.
Et où il explique.
C'est pas la peine de nous le lire, on le connaît. Hein. On connaît même le numéro de la page.
Oui, le numéro de la page. C'est pour ça, donc j'insiste pas là-dessus. Mais il explique bien justement que le revenu et la consommation est déterminée par le revenu et qu'il n'y a pas de lien entre le niveau de patrimoine et le niveau de consommation.
Bon, on va changer cette rubrique et on va appeler ça la bourse, on s'en fout. Allez, on va passer au placement de la semaine. Bon, les gérants, là, il va falloir vous réveiller dans le contexte actuel. Quelle classe d'actifs privilégiée, Eric Blaine?
Alors moi je trouve que comme la bourse est un peu haute et qu'elle risque de baisser de 5 à 10%, il faut regarder d'autres classes d'actifs et notamment la classe d'actifs obligataire.
Alors expliquez ce que c'est, parce que les gens ne comprennent rien quand on dit obligation ou obligataire, ils ne comprennent rien.
Donc c'est la même chose que d'aller voir une banque pour demander un crédit.
Okay.
On va voir une banque, on demande un crédit parce qu'on veut faire un crédit immobilier. Là, ouais. Ce sont les entreprises qui ont des projets, ouais. Et elles vont voir les marchés financiers pour leur dire, voilà, j'ai besoin d'emprunter l'argent. Et
puis, d'accord, donc le marché obligataire, c'est le marché des emprunts d'État ou des emprunts d'entreprise.
C'est ça. Et ça. Donc c'est une obligation à rembourser l'argent qu'on a emprunté.
Voilà.
Donc c'est l'emprunt obligataire. Et il faut reconnaître que la situation a énormément changé sur les deux dernières années, même sur l'année et demie, ouais. Puisque les taux d'intérêt qui étaient négatifs pour les
États les et meilleurs pour certaines grandes entreprises
absolument, sont passés positifs, voire largement positifs. Ouais. Donc on est autour en moyenne de 3,5% pour pouvoir
emprunter sur 10 ans. Voire 4,5% même pour des très bonnes signatures.
Exactement.
Sur
et donc pour des
ans,
un tout petit peu moins bonnes signatures, quand même des grandes entreprises avec pignon sur rue, grand côté et solvable, on trouve du 6,5-7% avec un horizon d'échéance de 4,5-5 ans.
Alors justement, ça, la question que vous posent les gens, c'est sans risque.
Il y a toujours un risque, puisqu'il y a le risque que l'emprunteur fasse défaut. Enfin,
l'emprunteur fasse défaut. Donc, votre 6,5, c'est un peu bidon. C'est
ah non,
un risque.
Pas bidon, parce qu'il est quand même engagé à rembourser. Et donc après.
S'il ne peut pas. S'il y a un défaut. Donc, c'est pas 6,5, il peut y avoir. Ça peut être moins que 6,5.
C'est le risque de l'investissement. Il y a toujours un risque à un investissement.
Et dans ce cas-là, vous conseillez le placement, je comprends. Vous conseillez donc de le faire plutôt dans des fonds pour avoir la mutualisation.
Alors, c'est là où je vous entends. C'est-à-dire que c'est quand même un marché qui est compliqué pour un particulier.
Bah oui, c'est très dur.
D'accès.
Bah oui.
Pourquoi? Parce que la somme minimale en général, hein, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est comme très fréquemment le cas, c'est 100 000 euros.
Ouais.
Donc tout le monde n'a pas 100 000 euros à mettre
enfin,
sur une obligation.
Clients, c'est pour le personnel.
C'est plus facile.
Ouais.
Mais tout le monde n'a pas cet argent-là. Mmh. Donc effectivement, passer par un fonds qu'on appelle daté, c'est-à-dire avec une échéance de 4,5-5 ans, qui diversifie et qui permet d'y accéder à partir de 500 euros, eh bien c'est effectivement plus facile. Pour n'importe
c'est
qui.
Plus facile et aussi il y a la notion de risque. Parce que quand on en a 200, s'il y en a deux qui plantent, ça n'a quasiment pas d'importance.
Voilà.
Quel placement ?
Est-ce que j'ai le droit de dire le livret A ? Non, c'est pour contrebalancer la notion du risque.
Non, mais moi je trouve que livret A, je dis à mes copains, mets déjà le plafond si tu veux sur le livret A.
Bien sûr, parce qu'à ces niveaux de rendement pour zéro risque, là pour le coup, je pense que ça me paraît assez évident.
C'est mieux que le compte courant, on va dire.
C'est certain.
Ça reste petit en montant quand même, heureusement.
Et oui, évidemment. Alors après. Bah,
pour vous, Eric,
oui.
Pensez à tous les gens qui nous regardent.
Moi, c'est moi encore,
mais vous êtes déformé à force de fréquenter que des milliardaires.
Financiers. Alors, je vais me contredire, je vais quand même rester sur les actions, même si j'ai dit stop. Oui, parce que les actions vont être corrélées à l'inflation. Et c'est ce qui est en train de se passer.
Mais vous nous avez dit stop.
Je sais, mais on n'investit pas aujourd'hui pour vendre demain.
Ah,
c'est-à-dire qu'effectivement, on va...
Parce que moi, je suis
un trader. Oui, ça je sais. Donc, moi, j'ai une vision un peu plus long terme. J'ai parlé des actions et je vais sortir les actions à haut rendement. Parce que justement, je pense que les obligations sont plus intéressantes de ce point de vue-là. Les actions à haut rendement, c'est les entreprises qui versent des dividendes assez conséquents. Mais là, il y a des classes d'actifs plus intéressantes pour aller chercher ce type de rendement. Et les métaux. Et en particulier, ça c'est la deuxième classe d'actifs, la troisième après le livret A et les actions européennes d'ailleurs, ça va être les métaux. Je pense que les métaux...
L'or ou les métaux...
Alors,
quels métaux
il y a de plus en plus d'offres qui se créent autour des métaux de la transition énergétique. Eric a dit, ça va être un enjeu majeur et moi j'en suis convaincue.
Il y a
transition...
plein de fonds qui se montent là-dessus. Hein,
oui, parce qu'en fait, c'est évident qu'il va y avoir un stress. Donc quand il y a un stress, une raréfaction, un besoin qui est en croissance à nouveau exponentielle, on va avoir des tensions sur les prix de ces métaux. Donc on a toujours eu l'or, effectivement, Jean-Marc en parlait tout à l'heure, je suis assez d'accord, mais en fait là, il y a beaucoup d'autres métaux qui arrivent.
Les métaux, vous avez un truc à dire?
Non, l'or.
Mais l'or, vraiment, dans vous...
Parce qu'il est resté au 18e siècle.
Non, vous êtes
c'est au 18e siècle.
Non, mais vous êtes sérieux, l'or?
Franchement, bon marché dans toutes ces pièces, 3 ou 4 fois, bon, Figaro dit, l'or, c'est le nerf de l'intrigue.
D'accord.
Et je pense que ça reste d'actualité.
Quel est le
alors c'est totalement stérile sur un plan strictement économique.
Bah oui.
Mais c'est totalement efficace sur le plan
financier. Et totalement stérile en termes de rendement, puisque ça rapporte zéro.
Ah mais ça rapporte zéro.
La plus-value.
Oui, exactement. Mais c'est un effet de richesse. Là aussi.
Mais je croyais qu'il n'y avait pas de effet de richesse.
Non, mais.
Ben Aouda, le mot de la semaine.
Lithium.
Voilà.
Le nord-ouest de l'Inde est susceptible de devenir un pôle d'attraction mondiale des investissements dans ce domaine. Parce que le GSI, qui est l'organisme de recherche géologique indien, a donné cette semaine des découvertes en millions de tonnes dans le Rajasthan. Il y a 3 mois, c'est dans le Jammu et Cachemire. Et tout cela fait que l'Inde peut escompter, semble-t-il, selon les calculs, couvrir 80% de ses besoins industriels en lithium pour sa filière électrique, parce que c'est la filière batterie électrique et véhicule électrique, pour revenir à notre sujet de départ, est un objectif stratégique pour les Indiens. Donc, ils vont pouvoir se passer vraisemblablement dans les années qui viennent de l'offre chinoise, ce qui, là aussi, de ce point de vue-là, peut contrebalancer les rapports de force face à la première économie asiatique.
Je me rappelle, dans une matinale, que vous disiez, en fait, à chaque fois qu'on s'inquiète pour quelque chose, il y a des sortes de gisements qui apparaissent, c'est un peu ce que vous êtes...
La géologie, pour cela, est vraiment extraordinaire, et de ce point de vue-là, les Indiens qui, en 1914, ont découvert du tungstène et pensaient que ça allait être une énorme trouvaille, ont été engloutis par le lithium chinois, et maintenant, la route...
C'est quand même génial, hein. Éric Blaine.
Moi, je parle de plafond. Alors, plafond des marchés, plafond de la dette américaine, Benabouda en a parlé, plafond de la dette en Europe, beaucoup de dettes, plafond de la dette en France, pour notre premier ministre, notre ministre des Finances, Bruno Le Maire en a parlé, Monsieur Attal en a parlé aussi. Il y a des plafonds partout et ça se complique sérieusement, je trouve.
D'accord, vous êtes super rassurant, c'est sympa. C'est une émission du week-end. Normalement, les gens sont censés passer un bon moment. Jean-Marc Daniel.
Oui, alors moi, je vais me couler dans le personnage que j'ai adopté depuis le début, c'est-à-dire je vais revenir à un événement historique, je vais rappeler l'inauguration du mot « crack ». Okay. Aujourd'hui, mon mot, c'est crack. Pourquoi? Parce que le mot crack ne menace pas exactement dans la situation boursière actuelle, mais menaçait la situation boursière mondiale en 1873. Le 9 mai 1873, la bourse de Vienne s'est effondrée de 30%. Et crack, en allemand, ça veut dire boucan. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens devant l'effondrement de la bourse se sont précipités chez Rothschild. Et Rothschild avait son siège social qui était en face des appartements privés de l'empereur François-Joseph. Et donc, au petit matin, tout le monde était là pour récupérer son argent, et ça a réveillé Sa Majesté, qui a demandé à sa domesticité, mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? Qu'est-ce que c'est que ce crack? Alors, on a appelé Rothschild, il vient de s'expliquer, il a dit, non, c'est juste effectivement un peu de bruit. Ah bon? Et donc, on a créé depuis l'habitude de dire, quand il y a un effondrement boursier, c'est juste un peu de bruit, c'est un crack. Sauf que le crack, qui devait être une façon de rendre ça anodin, c'est devenu le symbole d'une catastrophe.
Intéressant, c'était un crack bancaire, non? C'était
ça a commencé par un crack bancaire, et c'est ce crack qui a inspiré notamment à Zola, l'argent, c'est le crack d'une des banques françaises qui a inspiré l'argent.
Léa?
Coca-Cola. Alors, c'est un clin d'œil pour revenir sur le sujet de stress hydrique indirectement, mais c'est quand même intéressant ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 2000, les polémiques qu'il y avait eu autour des usines de Coca-Cola, je pense en Amérique latine, où en fait ils pompaient tellement d'eau que la population locale n'avait plus rien, et en contrepartie on leur donnait des bouteilles de Coca. Et là vous avez Grigny, donc une commune française sur laquelle Coca-Cola pompe à peu près 700 000 tonnes ou mètres cubes d'eau par an, n'en recycle à peine 10%. Tout le reste des industries de la région sont sur la Seine, et là ils sont en train d'essayer de trouver un accord, parce que c'est problématique. Alors Coca-Cola, il met du sien, hein, très clairement, mais je pense que ça illustre un problème très général sur lequel, finalement, le prix des externalités n'est pas là, parce que pomper dans une nappe phréatique, ça coûte rien aujourd'hui. Je serais pas surprise de voir émerger à terme, hein, vu le stress que l'on rencontre, un prix de l'eau comme on a aujourd'hui un prix du CO2, et ce serait probablement une bonne nouvelle.
Une taxation d'eau.
Un prix de l'eau.
D'accord. Et Coca-Cola, on le met dans un portefeuille ESG?
Non, malheureusement. C'est pas les pires, mais le produit
c'est
en lui-même.
Pas les pires.
Non, je parle en termes de comportement d'entreprise. Ouais. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Il faut bien décorréler le McDonald's. Hein, c'est un peu la même idée. Ce sont des entreprises qui ont fait des approches inclusives.
Ça a des bonnes notes ESG, des trucs comme ça?
C'est pas mauvais, en tout cas. Ce qui est problématique, c'est le produit final.
Ce qui veut bien dire que les notations ESG, c'est n'importe quoi.
Absolument.
Allez, on passe au top 3 des gérants que vous attendez tous. Virginie Robert est en hausse depuis le début de l'année. Jean-Marc Daniel, je sais que vous attendiez ça avec...
Mais absolument.
Elle est en hausse.
Je m'intéresse à la bourse, même si je considère que la bourse et l'économie sont déconnectées.
Elle est en hausse de 28,6% sur ses recommandations chez nous. Pierre Chang est en hausse de 19,8%. Louis de Montalembert est en hausse de 15,2%. Et on démarre une partie qui n'a absolument pas changé, mais on fait du changement avec un nouveau jingle. Ça s'appelle les pépites des gérants. C'est bon ça, non?
Ah oui, ça c'est excellent, ça oui.
Alors,
qu'est-ce qu'on fait?
Léa Dunant-Châtelain, je vais vous lire votre portefeuille et vous allez devoir me dire ce que vous vendez, ce que vous gardez, et ensuite vous allez devoir nous faire une recommandation, et ça doit être une pépite. Je démarre.
Ok.
Dassault Systèmes.
Ça, on garde.
Si vous avez un petit commentaire, il n'y a pas de problème. Alors, oui, non, mais pas sur chaque valeur.
Non. Bon, Dassault Systèmes n'ont rien à dire. La tech est bienvenue et on garde. Ouais.
Sika.
Sika, on va enlever, par contre.
Pourquoi?
Parce que le marché
Rappelez
de la construction.
Faisait...
Alors, Sika, ils font des matériaux de construction, notamment dans l'isolation. C'est une entreprise suisse. Moi, je suis un peu inquiète sur le, justement, le marché de la rénovation de la construction pour des problèmes d'approvisionnement, de main-d'œuvre. Beaucoup de sociétés alertent.
Allez, on dégage.
Elle a bien fonctionné, autant l'enlever maintenant.
ID Logistics.
On conserve.
Inouïdou.
Inouïdou en conserve.
Rational.
Alors Rational AG, très belle performance depuis le début de l'année.
17,7.
Ouais, c'est un pur player des fours en fait destinés aux cuisines. On va garder, mais ça commence à devenir un petit peu topiche. On l'enlèvera probablement la prochaine
topiche,
fois.
Ça veut dire quoi pour les un gens petit peu, comme Jean-Marc Daniel qui s'intéresse pas au marché.
Un petit peu cher.
Assystème.
Assystème, on garde. Alors là, un leader français de la réparation de nos centrales nucléaires.
Évidemment.
Je crois que là, le thème est évident.
Novo Nordisk.
Novo Nordisk, qu'on garde également.
Palo Alto.
Palo Alto, qui a un peu souffert. C'est l'occasion de renforcer pour ceux qui n'étaient pas rentrés.
Rappelez-nous ce que ça fait.
Leader mondial de la cybersécurité, acteur américain.
C'est beau, ça.
Ouais, 1000 milliards de dépenses annuelles des entreprises
milliards.
Dans le monde pour la cybersécurité, la sécurité de leur système d'information.
Il s'en fout.
Ah non, ça, je m'en fous pas. Et je crois que c'est un phénomène économique fondamental.
Absolument.
La cybersécurité ?
Oui, absolument.
Vous avez un mot à dire là-dessus ?
Non, si ce n'est qu'effectivement, autrefois, quand on voulait cambrioler une banque, on essayait de rentrer dedans avec un revolver et...
Ouais, ça, c'était à votre époque.
Oui, c'était...
Sur un cheval.
Voilà. Et maintenant...
Avec un hacker.
Avec un hacker. Allez, je rappelle que Wells Fargo, c'était des gens qui faisaient du transfert de fonds, qui faisaient de la sécurité. C'est comme ça que c'est devenu la principale banque américaine.
Allez, on accélère. Biomérieux, Sartorius, Tedim Biotech, Prismian,
ouais,
EDPR... Iberdrola, c'était votre dernière recommandation. Qu'est-ce que vous recommandez ? La pépite de la semaine de Léa.
Alors, c'est une du pépite Nantes. Du jour.
Je dramatise un peu l'événement.
Oui, je vais recommander Tulé. Tulé, vous voyez ce que c'est, Tulé ?
Non, pas Tulé. Du
tout. Oh, vous les avez
non,
vus partout,
moi,
forcément. Tulé, c'est les cargos sur les voitures, c'est les poussettes pour courir, c'est les sacs à dos pour faire de la randonnée. Et c'est un groupe nordique qui est vraiment dans le premium et dans les accessoires de sport qui a évidemment bénéficié de la période Covid. Ça s'est un peu tassé depuis un an. Contraction des multiples du fait de la hausse des taux, ça a été un point. Et puis là, ils lancent de nouveaux produits, ils sont toujours très innovants, beaucoup dans l'éco-conception. Il y a eu un changement de management.
Quoi, l'éco-conception ?
Alors, c'est essayer le plus possible de produire un vêtement, un sac à dos, en partant
mangeable,
de matières recyclées, et dont on va suivre le cycle de vie jusqu'à la fin, le récupérer, le repackager, et ainsi de suite. Quoi.
D'accord,
le
moins en de fait, on porte un t-shirt que quelqu'un a déjà...
Exactement.
Et qui a été relavé.
Mais oui, c'est et ça. C'est l'avenir, ça.
C'est l'avenir.
Donc, Tulé, c'est un bon point d'entrée parce que ça y est, la tendance sur...
C'est côté où ?
C'est côté au... Suède, pardon.
C'est pas grave.
Je cherche le pays nordique parce que je me les mélange, donc Suède. Et surtout, très intéressant, là, il y a eu un changement de management qui les pénalise un tout petit peu en termes de performance, donc c'est l'occasion de rentrer.
C'est le bon moment pour rentrer. Éric Blaine.
Oui.
Vous êtes prêt ?
Prêt.
La pépite de la semaine.
La pépite de la semaine ?
On va commencer d'abord par votre portefeuille.
D'accord.
Eiffage.
Eiffage, je conserve. C'est vraiment... C'est encore très peu cher et il y a encore beaucoup de potentiel.
La France vous regarde. Airbus.
Pour la dernière fois.
Pour la dernière fois,
mais je conserve aussi.
ALD.
ALD, les publications ce matin ont été très bonnes.
Vendredi matin.
Remonte, donc oui, vendredi matin. Et donc, je conserve.
SPI.
SPI, encore beaucoup de potentiel.
Mais ça a déjà monté de 18%.
Oui, c'est encore beaucoup de
potentiel. Une des valeurs préférées de Jean-Marc Daniel, Pernod Ricard.
Pernod Ricard, forcément, en tant que.
C'est un gros actionnaire.
On a envie
et gros
de voir,
consommateur.
Surtout
consommateur, oui.
Donc, Orange. C'est pas le fruit, hein, c'est là.
Orange est passé au vert, ça fait plaisir.
Okay. L'orange est passé au vert.
Oh, 23%.
Très bon, il revient.
Non, mais vous voyez, vous êtes trop gentil. Non, on s'était mis d'accord. On a dit, dégage. Il a dit, non, je suis pas d'accord avec Jean-Marc Daniel, c'est mort, ça.
Je fais des efforts.
Mais non, mais c'est foutu. Plasticomium.
Plasticomium, on a vendu ses poubelles et depuis, c'est beaucoup mieux.
C'est pas un bon business, les poubelles.
Si, ça l'a été, hein, franchement, mais ils se concentrent sur les équipements automobiles et je pense qu'ils ont raison. Et donc, la dynamique industriel est en train de repartir sur le plan de l'automobile, puisqu'il y a moins de problèmes de semi-conducteurs. Et donc, je pense que ça va faire du bien aux industriels qui sont sensibles au volume.
Et acteurs de l'hydrogène,
sans
passer par les problématiques technologiques, ils font les réservoirs.
Ouais, Eric Blaine, vous avez une minute pour la pépite de la semaine.
Alors, la pépite.
Convaincre.
Oui. Alors ma pépite,
la France vous
commence bien parce qu'elle a un train de retard. C'est la septième moins bonne performance du CAC 40. Ouais. Donc ça c'est une pépite en devenir. D'accord. Et donc elle est dans l'urbanisation, dans l'équipement.
C'est le teasing.
Okay. Donc c'est dans l'urbanisation, dans
comme j'entends pas bien avec voilà. Là, je me
donc il s'agit d'Alstom. Alors bon management, bien, ouais. Faut bien reconnaître. Bonne décision stratégique de s'internationaliser parce que c'est vraiment aujourd'hui un sujet qui concerne les pays émergents et les pays développés dans leur amélioration en fait de la décarbonation. Là, on a donc Alstom qui a acheté Bombardier au Canada, ce qui lui permet de profiter effectivement de ce marché américain. Mais ils l'ont fait à un moment où la dette était pas chère et ils ont mis beaucoup. Donc le marché financier a détesté cette période où ils se sont aperçus, enfin ils le savaient déjà, mais ils se sont aperçus que mettre à niveau les marges prenait du temps. Et donc là, ils viennent de nous dire que ça va prendre un an de plus. Et puis,
donc c'est une des plus mauvaises performances de l'année.
Absolument.
Donc on est à les derniers deviendront les premiers.
C'est ce que je pense, parce que aujourd'hui, on est à 60% de décote sur les capitaux investis. Il y a une marge de 4%. Si on va à 8-10, comme les objectifs de la société nous le disent, on peut gagner 60%.
On ne saura pas si vous avez raison ou tort, puisque vous ne reviendrez pas. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque. On dit au revoir à Eric Blaine. On se retrouve. Jean-Marc, vous reviendrez ?
Mais volontiers.
On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir, nous réécouter en replay, en podcast sur toutes les plateformes. Et ça cartonne, donc il faut continuer.